résumer un colloque aussi riche est tout à fait impossible. Tirer des conclusions au sens où il s'agirait de vous dire à la fin « item missa est », enfin de manière laïque évidemment, ça n'a pas non plus de sens, et d'ailleurs les laïcs se garderaient bien d'utiliser une telle formule. Non, la messe ne sera pas dite, et je vais surtout soulever davantage de questions que de proposer de réponses. Mais on peut se féliciter d'un colloque qui effectivement a réuni autant de participants, a suscité autant de débats, nous a amené à poser autant de questions. Vous l'avez bien compris, une des questions centrales qui a été posée dans ce colloque, c'est celle de la définition de ce qu'est, de ce qu'a été, de ce que sera la bibliothèque populaire. Il n'existe pas d'idéal type. Il n'existe pas de bibliothèque populaire chimiquement pure. On a bien vu, avec les esquisses de comparaison internationale, que la Biblioteca Popular de l'Argentine actuelle ressemble, bien entendu, à telle et telle bibliothèque populaire, tout en s'en écartant. Donc, il faut peut-être éviter d'essayer ou de vouloir partir d'un modèle présupposé. Au fond, il y a une sorte de pragmatique, de bricolage, qui s'est opéré au XIXe comme au XXe et au XXIe siècle, et qui a amené à la création de bibliothèques assez proches dans la mesure où elles se veulent ouvertes au peuple, c'est-à-dire à qui ? Eh bien, demandons à Pierre Larousse, un des grands acteurs au XIXe siècle de ce mouvement, à ce lecteur qui s'appelle Tout le monde. Magnifique définition qui résume l'ambition de Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Je ne m'adresse pas aux élites du pouvoir, de l'économie, de la culture, je m'adresse à ce lecteur qui s'appelle Tout le monde. C'est évidemment la manière la plus difficile d'écrire. Comment écrire pour ce lecteur qui s'appelle Tout le monde, c'est-à-dire en ne laissant personne sur le bord de la route, tout en évitant la démagogie et le populisme, donc le réductionnisme. J'aurais envie également d'évoquer, dans la galerie des grands ancêtres, à côté de Pierre Larousse, Victor Hugo, dont on n'a peut-être pas assez remarqué que dans Les Misérables, qui paraît en 1862, juste au moment où va naître la Ligue de l'enseignement en Belgique puis en France, où la bibliothèque des Amis de l'instruction va également naître, que dans Les Misérables, il y a les Amis de l'ABC, les trois premières lettres de notre alphabet, à moins que malicieusement, Victor Hugo n'ait voulu utiliser le participe passé du verbe ABC, ABAI2SER, et que les Amis de l'ABC, E accent aigu, soient les amis du pauvre, de l'humilié, de celui qu'il faut relever. Et évidemment, c'est ce deuxième sens qui a été voulu par Victor Hugo, puisqu'on a affaire à une de ces associations, et remontons 30 ans en avant, puisque les scènes dont je parle se situent au moment de l'insurrection du cloître Saint-Merry, donc on est en juin 1832, dans cet immense mouvement qui suit la révolution de juillet 1830, et où effectivement les mouvements d'éducation du peuple sont innombrables. Il y a des jeunes intellectuels, des jeunes écrivains, des jeunes professeurs qui vont au peuple, un peu comme dans les mouvements russes contemporains ou un peu plus tardifs. Il s'agit d'abord d'enseigner, d'alphabétiser. Et dans les prisons où vont se retrouver ces républicains, on trouve de très nombreux, effectivement, militants de l'éducation populaire, de l'éducation ouvrière. Les deux termes sont utilisés et à peu près synonymes. Il y a un messianisme révolutionnaire dans cette période qui fait que l'on considère, en se référant cette fois, et on remonte le temps, à la grande révolution française, on imagine effectivement une révolution à venir qui va apporter les lumières de la connaissance, qui va permettre à chacun de devenir véritablement citoyen. Pour bien comprendre l'époque dont nous parlons, il faut se souvenir de cette étrangeté. Karl Marx a eu l'étrange idée, ou en tout cas ses éditeurs français, d'éditer en feuilleton le livre 1 du Capital. Aujourd'hui, si nous donnions à lire le livre 1 du Capital, allez, soyons gentils, en master 2 d'économie ou de management, même à HEC ou à l'ESSEC, je mettrais 0 ou 2 aux copies. Parce que la plupart des étudiants en économie d'aujourd'hui sont incapables de lire ce texte. Difficile, sans aucun doute. Mais ça pose un problème. Est-ce qu'il était destiné à ne pas être vendu, à ne pas être lu, à être rejeté, ou est-ce qu'il était destiné, a priori, à rencontrer des lecteurs ? Évidemment, il était destiné à rencontrer des lecteurs. Les premiers fascicules, les premières livraisons se sont vendues à 10 000 exemplaires, les dernières à 2 ou 3 000 exemplaires. C'est à la fois modeste et beaucoup. Ce sont des chiffres de tirage relativement importants. Ça veut dire qu'au XIXe siècle, il faut se souvenir aussi qu'on lit un journal intégralement, pas du tout comme nous lisons Le Monde. Aujourd'hui, nous lisons Le Monde ou Libération, Le Figaro ou L'Humanité, chacun choisira la couleur du journal qu'il préfère. On le lit en gros avec le modèle standard de 20 minutes. Nous avons des cerveaux formatés pour ne lire que 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, pof, ils s'éteignent, exactement comme le courant alternatif de l'ordinateur, c'est allumé ou éteint, on est en système binaire, effectivement. Binaire, c'est pas loin de l'absence de réflexion. On lit à l'époque le journal intégralement, 4 pages, puis 6 pages, 8 pages. Je ne parle pas de la publicité, donc on le lit intégralement. Le populaire est à la mode. En 1848, une des chansons les plus familières, c'est « Chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier ». C'est plus tellement à la mode. On n'imagine pas aujourd'hui des candidats à l'élection présidentielle qui diraient « Chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier ». L'ouvrier lui-même aujourd'hui ne se pense pas comme ouvrier. Et le problème des 6 millions d'ouvriers français, c'est qu'ils refusent une identité ouvrière. Il y a peut-être, au sens hegelien, une classe en soi, mais il n'y a pas de classe pour soi. C'est un des problèmes, évidemment, que rencontrent les sociologues aujourd'hui. Donc, on est à une époque où un certain nombre de termes sont confondus, ou en tout cas extrêmement proches. Donc, une bibliothèque populaire, c'est une bibliothèque certainement à la fois républicaine, à la fois laïque, un peu ouvrière, mais les employés n'en sont pas chassés. Les paysans non plus, si tant est qu'on puisse leur offrir quelque chose. Et puis, il y a d'autres acteurs, ils ont été évoqués par un certain nombre d'entre vous, mais le plus souvent en creux, ce sont les églises. Et la première, la plus puissante en Europe à l'époque, l'Église catholique, qui n'entend évidemment pas se laisser déposséder de cet extraordinaire instrument de pouvoir qu'elle possède depuis, disons, le XVIIIe siècle. Ce n'est pas la peine de remonter très loin en arrière, en fait, avant 1750, contrairement à ce qu'on a pu écrire, non, les curés n'ont pas alphabétisé la population. Les choses commencent à changer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire très exactement au moment où les œuvres de Voltaire passent intégralement à l'index Librorum Prohibitorum, le catalogue des livres interdits, et où l'encyclopédie va être censurée. Il y a une réaction de l'Église qui considère qu'elle est assiégée, qu'il y a un danger considérable, c'est ce mouvement des Lumières. Et un certain nombre de catholiques, autour des jésuites notamment, vont s'organiser pour effectivement apprendre à lire. Les frères de la doctrine des écoles chrétiennes vont jouer un rôle considérable, évidemment, en France, mais les jésuites vont jouer un rôle très important pour créer des associations. Je veux dire par là que l'Église catholique joue un rôle très important, et évidemment, les bibliothèques paroissiales vont être d'authentiques bibliothèques populaires, au moins dans le sens d'instruments destiné à la population la plus large possible. Dès 1771, le jésuite Nicolas de Disbar, on l'a vu dans une des projections hier apparaître dans le catalogue d'une des bibliothèques populaires. Eh bien, dans cet ouvrage qui s'appelle « Le chrétien catholique », ce Suisse protestant, marié, veuf, converti à l'Église catholique, devenu prêtre et jésuite, bel itinéraire, donc une riche expérience. C'est lui qui, en 1771, publie à Turin, mais en français, Le chrétien catholique, une œuvre dans laquelle il invite les catholiques à ouvrir, à créer des bibliothèques. Des bibliothèques dans lesquelles le but, c'est de faire lire. Il est conscient que ce qu'on appelle en allemand la « lesewut », la rage de lire, j'aime bien ce terme, c'est ma traduction, bon, allez, la soif de lire, mais vous voyez, je mets James Dean un petit peu par là, hein, la rage de lire, la soif de lire s'est emparée évidemment de minorités, d'élites urbaines, notamment de femmes, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Angleterre, le succès de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, et puis également Richardson, moins lu aujourd'hui avec Pamela, en France la nouvelle Héloïse de Rousseau, bien plus que le contrat social ou l'Émile. En Allemagne, les souffrances du jeune Werther, il y a un mouvement, une lame de fond. C'est pourquoi Voltaire va être évidemment mis à l'index. Le Voltaire de Candide, un des inventeurs du roman du XIXe siècle, le Voltaire de Zadig. Et il y a à la fois un raidissement de l'Église et une pragmatique, une adaptation pour faire en sorte, puisqu'on ne peut pas enrayer le fleuve de livres qui se déverse, eh bien, on va essayer de l'endiguer, de le canaliser. Ça va donner toute la littérature édifiante contre laquelle Pierre Jules Hetzel s'est battu toute sa vie. Ces centaines de milliers d'hectolitres de tisane littéraire absolument insipide qui vous donnent mal à l'estomac aujourd'hui, mais dans lesquels quand même surnagent quelques titres. Eh bien, évidemment, le livre du cardinal Wiseman, Fabiola ou l'Église des catacombes, et puis quelques autres. La grand-mère du général de Gaulle a été un de ces écrivains de littérature édifiante, de littérature de gouvernante, comme disait Hetzel. Mais à côté de cette littérature édifiante, il y a ce côté pragmatique. L'abbé Bethléem, dont je vais reparler dans un instant, l'abbé Bethléem, on le présente toujours comme un censeur, ce qu'il a été, mais c'est un censeur particulièrement intelligent. Prenons quelques exemples, parce qu'il a été enseignant, et il s'est rendu compte que, de toute façon, la jeunesse voulait lire. Alors, George Sand, elle est à l'index. Sa première catégorie de romans à lire et romans à proscrire, c'est tout simplement le catalogue de l'index. Il ne peut pas ramener George Sand, elle est à l'index. Il ne peut pas aller contre la volonté de Rome. Sauf que, il dit, oui, mais on peut quand même lire les romans de la pastorale. Donc, La Mare au Diable, La Petite Fadette, il les récupère. Victor Hugo, Lamartine sont à l'index. Lisez quand même les morceaux choisis, lisez les extraits. C'est-à-dire qu'il fait sortir par la porte, pour dire à Rome, je suis en plein accord, et il fait rentrer par la fenêtre un certain nombre de romans. On est assez étonné de trouver Huckleberry Finn qui a grâce à ses yeux, L'île au trésor de Stevenson. Toute une série d'écrivains qu'on s'attendrait plutôt à voir dans l'enfer plutôt que dans le purgatoire ou dans le paradis. Pourquoi j'évoque l'abbé Bethléem ? Parce que si l'abbé Bethléem a écrit en 1904 et publié Romans à lire et Romans à proscrire, s'il a ensuite lancé en 1908 la revue Romans Revue, puis à partir de 1919 la revue des lectures qui va durer 20 ans, s'il a eu cette influence si profonde qu'il est un des pères qu'on n'évoque jamais de la loi de 1949 sur la protection de la jeunesse, c'est tout simplement parce que, et il l'explique très bien, c'est devant le succès des bibliothèques populaires, c'est devant le succès du travail des républicains qui veulent donner à lire de la littérature non édifiante, de la littérature qui risque de faire du mal, parce qu'à ses yeux, eh bien, il faut 1 million d'âmes pures pour racheter un livre de Rousseau ou de Voltaire. Bon, c'est évidemment une littérature apocalyptique dont je lui laisse l'entière paternité et responsabilité, mais par rapport à cela, il faut qu'effectivement les prêtres considèrent que leur travail prioritaire, c'est d'aller au peuple. Ça ne suffit plus d'avoir des collèges de jésuites destinés aux élites, les fameuses jésuitières de l'affaire Dreyfus. Ça ne suffit plus d'avoir des œuvres avec des dames patronesses. Il faut récupérer la population la plus large. Et vous le savez, dans l'entre-deux-guerres, les patronages catholiques vont utiliser essentiellement 2 armes, le cinéma et le ballon de football. Il faudrait dire 3, mais le cinéma est un peu le relais de la bibliothèque de l'avant-première guerre mondiale, c'est-à-dire des moyens très simples pour faire en sorte qu'effectivement on puisse se distraire et passer un moment agréable ensemble. C'est donc, vous le voyez, pour pouvoir avec vous réfléchir à ce qu'a été une bibliothèque populaire que j'élargis volontairement le concept. Il faut accepter dans notre étude des bibliothèques populaires toutes celles qui, au lieu de se restreindre à un public bien défini, par exemple, une bibliothèque d'officiers dans une caserne, celle-là, elle a un public qui est limité aux officiers, même si, pour être complet, les officiers prêtent sans doute les livres. Mais enfin, elle est circonscrite. La bibliothèque du Rotary Club, elle ne s'adresse ni aux ouvriers, ni aux paysans, ni aux employés, mais aux adhérents de ce club select qui est censé regrouper les élites d'une ville. La bibliothèque du cercle des amis du théâtre lyrique, elle s'adresse aux amis du théâtre lyrique. Donc on peut écarter peut-être dans un premier temps les bibliothèques spécialisées pour garder toutes celles qui ont une vocation large. Vous vous souvenez bien qu'à l'époque dont nous parlions, notamment en gros jusqu'à largement aux années 50, les bibliothèques municipales ne sont pas des bibliothèques populaires. Et je vais le prouver par un chiffre accablant pour le mouvement des bibliothèques. Combien de livres sont empruntés en France dans le réseau des bibliothèques municipales en 1951 ? 8 millions de livres. Donc moi je dis à mes étudiants, il n'y avait pas de bibliothèque municipale avant 1951. je le fais de manière provocatrice, bien sûr qu'il y en avait, mais capable de prêter seulement 8 millions d'objets imprimés, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de moyens, et vous comprenez mieux pourquoi, c'est au moment du Front populaire que l'État a commencé à articuler une réflexion sur une véritable politique publique de lecture. Bien sûr qu'il y avait eu antérieurement des réflexions, des initiatives, mais c'est dans les années 60 et 70 que les bibliothèques municipales se sont constituées. Et puis, dans les années 80, elles passeront de la bibliothèque à la médiathèque. Et puis, je l'ai noté à juste titre avec la dernière communication. Aujourd'hui, nous savons bien que c'est quelque chose en tech, mais nous ne savons plus quel est le radical qu'il faut mettre avant tech. Je ne l'ai pas non plus. C'est peut-être un centre culturel, mais peu importe. On y reviendra éventuellement tout à l'heure. Les bibliothèques municipales n'étaient pas des bibliothèques populaires, sauf exception. Il y a une très belle étude qu'on n'a pas citée aujourd'hui de Jean-François Piteloup sur la bibliothèque de Genève. Elle a l'avantage de démarrer au XIXe siècle et d'aller jusqu'au XXe. On voit bien comment à Genève, une bibliothèque municipale a été obligée d'ouvrir ses catalogues aux romans et donc a été contrainte de devenir une bibliothèque populaire, alors que telle n'était pas sa vocation. Mais comme le public ne venait plus sauf à lui donner les livres qu'il réclamait, les romans, alors les catalogues se sont ouverts. Donc la bibliothèque populaire, elle englobe donc toute une série, à mes yeux, et c'était le sens de beaucoup de vos interventions, énormément d'initiatives. Il faudrait reprendre toutes les associations philotechniques, polytechniques, amis de l'ABC, amis de l'instruction, peu importe le nom qu'ils ont choisi de se donner entre la Révolution française et les années 1860, avant que de véritables bibliothèques qui, cette fois, vont mobiliser le vocable de populaire n'apparaissent véritablement sur la scène publique. Ces bibliothèques populaires, on a vu aussi que, pour beaucoup d'entre elles vont être communalisées. Pas toutes au même moment, puisque si la ville de Paris, la thèse de Laure Léveillé l'avait montré, a été assez pionnière dans les années 1880 à 1900, le département de la Seine est allé également assez vite. On a vu que pour certaines, Montreuil, c'est 1935, Choisy le Roi, c'est 1943. Petite parenthèse, j'ai vérifié, hier je voulais le dire à notre collègue, Choisy le Roi n'est une ville communiste que depuis 1959. Donc, dans la période dont nous parlions, c'était une ville qui était, je n'ai plus regardé, peut-être socialiste ou une ville radicale, je ne me souviens plus, antérieurement. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ces bibliothèques populaires qui deviennent des bibliothèques municipales, mais pas toutes. Et là aussi, je vais reprendre en parallèle le cheminement des bibliothèques paroissiales, dont l'Église catholique se rend compte à peu près au moment du Front populaire, et même très exactement au moment du Front populaire, qu'elle ne peut plus les mobiliser pour être des anti-modèles de la bibliothèque populaire laïque. Parce que pendant une trentaine d'années, la bibliothèque paroissiale a eu des catalogues dans lesquels, évidemment, les auteurs maudits ne figuraient pas. En gros, les bibliothèques paroissiales avaient une Bible à côté de la Bible. Leur Bible, avec un petit B, c'était la revue des lectures, c'est-à-dire avec le guide de sélection, eh bien, des autorités catholiques compétentes dans ce domaine. Mais en 1936, les bibliothèques paroissiales choisissent de s'appeler « Bibliothèque pour tous ». Donc, de laïciser, en quelque sorte, au moins leur vitrine, au moins leur devanture. Et comment leur refuser, et de quel droit leur refuser, ce nom de bibliothèque populaire, à partir du moment où elles veulent être pour tous. Et puis, il faudrait intégrer toutes les bibliothèques des associations ouvrières S-qualité, les bibliothèques des bourses du travail, qui, évidemment, écartent le public bourgeois, mais eux, ils ont des livres, ils n'en ont pas besoin, mais en tout cas, ont une vocation assez large. Employés, enfin, en gros, tous les salariés peuvent venir emprunter à la bibliothèque de la bourse du travail, bibliothèque des syndicats, bibliothèque également de certains partis politiques se voulant effectivement issus du peuple et même l'avant-garde du peuple. Je pense aux bibliothèques des cellules communistes des années 30, on peut dire, jusqu'aux années 70 ou 1980, avec un immense effort d'éducation ouvrière, évidemment, dans un sens politique très précis. Il s'agit de former des militants, mais en même temps, on fait lire aux militants aussi bien Voltaire qu'Anatole France, c'est-à-dire des auteurs qui, évidemment, ne sont absolument pas, pour voir, partie de la famille communiste, même si Maurice Thorez est privilégié avec Fils du Peuple ou d'autres. Il faudrait ajouter, plus près de nous, probablement, les efforts d'éducation faits au même moment que le Parti communiste dans les milieux anarchistes. De très nombreuses bibliothèques d'éducation également populaire destinées à faire lire. Et puis, y ajouter, après 1945, les bibliothèques des comités d'entreprise, qui ont joué un rôle considérable dans la diffusion de ce concept, de ce modèle de bibliothèque populaire. Les bibliothèques des comités d'entreprise, elles s'interrogent aujourd'hui. Il y a des tentatives de rapprochement avec des bibliothèques municipales ou des bibliothèques à vocation régionale pour essayer de faire en sorte qu'elles ne meurent pas. Elles ont joué un rôle tout à fait considérable, au moins de 1945 à 1970. Comprenez bien qu'aujourd'hui, le réseau des bibliothèques municipales prête plus de 200 millions de livres par an. On est passé de 8 millions à 200 millions. La population française, elle n'a même pas doublé dans la période. Donc vous voyez bien que nous avons une situation en France aujourd'hui, contrairement à tous les Cassandres qui parlent de problèmes et de crise de la lecture, moi je me refuse à dire cela. Les Français achètent environ 450 millions de livres et ils en empruntent plus de 200 millions. Donc en gros, on a 66 millions d'habitants, ça fait un achat ou un emprunt de 10 livres par habitant. Mais la statistique met aussi bien les vieillards malades en train de mourir à l'hôpital que les enfants qui n'ont pas encore appris à lire. Donc au fond, pour ceux en âge de lire, c'est 12 à 13 ou 14 livres achetés ou empruntés chaque année. C'est un taux évidemment extrêmement important. Alors voilà ce sur quoi je voulais m'attarder pour réfléchir avec vous.